VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Soudan, début du procès pour corruption du président déchu Omar al-Béchir, qui a dirigé le pays pendant 3 décennies. L'ex-chef de l'État, déposé par l'armée le 11 avril en réponse à des manifestations massives, est arrivé ce lundi au tribunal de Khartoum, escorté par un imposant convoi militaire. Son procès devait s'ouvrir samedi, jour de la signature de l'accord de transition historique entre le conseil militaire au pouvoir depuis avril et la contestation. Mais il avait été reporté sine die. Au tribunal, le brigadier de police Ahmed Ali a révélé aujourd'hui qu'Omar al-Béchir avait reçu 90 millions de dollars en espèces de l'Arabie Saoudite. Selon l'officier, l'ancien président lui a dit que l'argent avait été livré par des émissaires du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Politique au Soudan maintenant, le pays s'est engagé concrètement dimanche dans sa phase de transition vers un pouvoir civil qu'il espère apaiser avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation. Le point avec Thomas Kamilindi.
Ce compromis entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation prévoit une transition de 39 mois qui doit être menée par un conseil souverain composé de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de nombreux dignitaires étrangers, le plus grand événement à être organisé depuis des années dans la capitale soudanaise. Plusieurs pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un nouveau Soudan après les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis que Washington soutiendrait l'établissement d'un gouvernement qui protège les droits de tous les Soudanais et mène vers des élections libres et équitables. Pour l'analyste soudanais Abdelatif Al-Bouni, le plus grand risque dans l'immédiat pour la transition est la volonté de se venger de certains. Plusieurs étapes précéderont les élections prévues en 2022. Le gouvernement doit, lui, être formé le 28 août avec 20 membres au maximum pour permettre aux nouvelles institutions d'affronter les principaux défis du pays, en priorité la relance d'une économie en crise.
Au Tchad voisin, l'état d'urgence est en vigueur depuis hier dans les provinces de Sila et de Ouaddaï dans l'est du pays. Mesure prise par le président Idriss Déby Itno après des affrontements intercommunautaires meurtriers qui ont fait des dizaines de morts ce mois-ci dans les régions concernées. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'état d'urgence est déclaré pour 3 mois dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Dès maintenant, nous allons déployer des forces militaires qui vont assurer la sécurité de la population dans la zone, a assuré le président Déby en déplacement dans le Sila. Il a également ordonné le désarmement de tous les civils de la zone qui ont des armes entre les mains. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de bilan plus précis. Depuis le début de l'année, ces violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné d'autres régions du Tchad. Le président Déby a plus particulièrement incriminé l'afflux d'armes venues des pays frontaliers du Tchad en proie à de graves conflits comme la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. Ces situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs se retrouvent aussi dans plusieurs autres pays africains, notamment au Nigeria ou en Centrafrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 3 personnes ont été tuées par balle par la police ce lundi lors d'une manifestation à Oicha, localité du territoire de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Un rassemblement contre l'insécurité dans la région où des tueries sont quasi quotidiennes. Les manifestants protestaient contre une attaque la veille attribuée aux milices ougandaises musulmanes des ADF, les forces démocratiques alliées, qui avaient fait 2 morts. La police a dispersé les manifestants avec des tirs à balles réels et du gaz lacrymogène. Et pour l'instant, le bilan est de 3 morts, une femme, un jeune homme de 25 ans et un enfant tué par balle. C'est ce qu'a affirmé Noëlla Katongerwaki, présidente de la société civile du territoire de Beni. Suite aux violences de ce lundi, les activités sont paralysées à Oicha, cité située à 30 km au nord de la ville de Beni. Ebola en RDC maintenant, il y a eu des avancées prometteuses dans la lutte contre la fièvre hémorragique avec de nouvelles techniques pour l'hospitalisation et l'isolement des malades et de nouveaux médicaments. Mais les traitements ne sont vraiment efficaces que si les patients sont pris en charge suffisamment tôt après l'apparition des premiers symptômes. L'épidémie continue donc de se propager en RDC et elle a déjà fait plus de 1900 morts. Reportage à Béni de notre correspondante Patricia Huon.
Il y a une patiente à l'intérieur. Ça fait 6 jours qu'elle est là. On peut la voir même de l'extérieur, là. Cliniquement, elle va mieux. C'est pas comme à l'entrée.
À Béni, le centre de traitement Ebola peut accueillir une 60aine de patients. 13 chambres d'urgence biosécurisées sont utilisées pour la première fois dans cette épidémie. Il s'agit de cubes de plastique qui permettent d'observer le patient de l'extérieur, de lui parler et même d'effectuer certains soins sans devoir entrer dans la pièce avec un équipement complet de protection. Cela permet aux proches d'apercevoir le patient et au personnel soignant d'être plus efficace, explique le docteur sympathique Kayani.
On peut suivre son état général de l'extérieur par le moniteur et aussi par la paroi plastique. Si par exemple je veux changer une perfusion, j'introduis mes mains, mes bras à l'intérieur de deux gants. On ne va pas porter toute une combinaison. Si les patients peuvent parler, ils peuvent dialoguer avec leurs familiers et ils le voient de l'extérieur. Ça rassure un peu le patient.
Des systèmes de réanimation et de nouveaux médicaments sont utilisés. Un essai clinique a été mené dans le centre de traitement Ebola de Béni. Il suggère que les patients traités avec deux des molécules pourraient avoir jusqu'à 90% de chances de survie s'ils sont pris en charge rapidement. Le docteur Modé Camara de l'ONG Alima a coordonné l'étude sur place.
En Afrique de l'Ouest, on n'avait pas ce tableau. D'appareillage et ce qui permet d'avoir une visibilité directe sur le malade. Ce sont des soins intensifs. La mortalité avec le virus Ebola sans traitement spécifique était élevée. Mais maintenant avec les médicaments, nous retrouvons avec un taux en deçà de 30%. Le premier, c'est un anticorps monoclonal issu d'un le sérum d'un survivant. Et le second, c'est encore des anticorps monoclonaux qui est très efficace sur le virus Ebola.
Le taux de guérison au centre de traitement est désormais de 60 à 70%. Aujourd'hui, 14 patients, hommes, femmes, enfants et un bébé, sont déchargés. Ils ont vaincu la maladie. Certains sourient et lèvent les bras en signe de victoire. D'autres semblent confus, inquiets. Pour beaucoup de survivants, le retour dans leur communauté est accompagné de stigmatisation.
Dans la communauté, on ne croit pas vraiment qu'une personne peut guérir d'Ebola. C'est un certificat de décharge pour dire que je suis guéri. On dit à la date d'émission de ces documents, les porteurs de ce certificat ne présentent pas de risque de contaminer d'autres personnes parce que ce test a été négatif pour la maladie à virus Ebola.
Même si les traitements s'améliorent, la méfiance et les rumeurs persistent. Beaucoup de personnes craignent de se rendre au centre de traitement. Le nombre de malades qui meurent chez eux reste important et la chaîne de transmission se poursuit. À Béni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ouganda, explosion d'un camion-citerne dimanche soir dans l'ouest du pays, bilan au moins 19 morts. 10 personnes ont péri instantanément lorsque le conducteur a perdu le contrôle du camion et a heurté 3 autres véhicules, provoquant plusieurs explosions et l'incendie de 25 échoppes hier soir, a déclaré ce lundi à l'AFP le porte-parole de la police régionale, Martial Tumu Siime. Parmi les blessés hospitalisés, 9 ont succombé à leurs blessures, a souligné le porte-parole. L'accident s'est produit dans un centre commercial à Kiambura, district de Rubirizi, une région montagneuse située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Le porte-parole n'a pas été en mesure de donner le nombre exact de blessés. Rappelons que le 10 août, l'explosion d'un camion-citerne accidenté en Tanzanie a fait 95 victimes selon un dernier bilan communiqué dimanche. La plupart des victimes étaient des conducteurs de mototaxis et des badauds affairés à siphonner le carburant qui s'échappait du camion lorsqu'il s'est embrasé. Et puis, en Ouganda, une catastrophe similaire avait fait 33 morts en 2013 à Kampala. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.